magazine de l'environnement.
Si nous ne changeons rien, il n'y aura bientôt plus de poissons dans les océans. Bientôt, c'est quand? Eh bien, ça dépend. Selon certaines ONG, ce serait avant le milieu du siècle. Selon d'autres instances, un peu plus tard. Ce qui est certain, c'est que au moins 30% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pourtant, la pêche est une activité qui, si elle est pratiquée raisonnablement, peut se concilier avec la préservation des espèces. Bonjour Philippe Curie.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous êtes expert en gestion écosystémique des ressources marines. Je précise que vous êtes en duplex de Montpellier grâce aux équipes techniques de France Bleu Hérault. Alors, est-ce que nous pêchons trop aujourd'hui?
Vous l'avez rappelé, les chiffres et les tendances lourdes sont au niveau mondial, sont là. Il y a beaucoup de stocks de poissons qui sont surexploités, 30%. Et aujourd'hui, tous les stocks de poissons sont exploités au niveau mondial, c'est-à-dire vous allez dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle zone, dans n'importe quelle profondeur, on pêche et on pêche avec une grande intensité. Cette pêche est tellement intense, pourquoi ? Parce que en réalité notre appétit est grandissant pour les ressources marines. Et il y a un chiffre qui est absolument étonnant et qui inquiète d'ailleurs les Nations Unies chaque année, tous les deux ans, quand le rapport de la FAO est produit, le rapport SOFIA, c'est le fait qu'en 50 ans, on est passé d'une consommation qui était de 5-6 kilos par tête d'habitant à plus de 20 kilos aujourd'hui. Donc il y a une tendance qui n'arrête pas de mettre une pression absolument fabuleuse sur les ressources marines. Donc c'est cet appétit qu'on a individuellement. Et bien sûr, en plus de ces 5 et 20 kilos, cette augmentation absolument phénoménale, vous avez aussi une augmentation de la population qui est passée de 3-4 milliards à 6 milliards aujourd'hui.
Oui, donc la pression est de plus en plus importante et notre technologie est aussi devenue de plus en plus puissante. Finalement, on joue à part inégale avec la nature.
Oui, la technologie, on la voit toujours comme un bienfait, comme quelque chose qui va résoudre finalement nos problèmes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une technologie de guerre. Hein. Ce sont des GPS, des sonars, des radars qui permettent de localiser les poissons avec une finesse et une acuité absolument incroyable. On peut repérer un thon à 3 km à la ronde. Donc aujourd'hui, si on utilise cette technologie pour toujours plus exploiter, eh ben on peut très bien vider les océans. Vous savez, j'étais au Pérou il y a deux ans. C'est la plus grande pêcherie du monde. La plus grande pêcherie du monde qui pêche 10 millions de tonnes d'anchois. Et quand on va au Pérou, eh ben en réalité, les bateaux ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas, ils pêchent simplement 30 à 40 jours. Parce que pour pêcher 10 millions de tonnes, il y a une telle, ce qu'on appelle surcapacité, un tel nombre incroyable de bateaux et d'efficacité de pêche qu'on peut capturer 10 millions de tonnes en 40 jours.
Alors, les océans qui recouvrent plus des deux tiers de notre planète hein, sont immenses, donc on ne peut pas parler vraiment d'extinction d'espèces. On parle plutôt de raréfaction parce que c'est impossible à vérifier. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont vraiment menacées par la surpêche aujourd'hui et pour lesquelles on pourrait craindre une extinction?
Alors, c'est vrai que comparé au milieu terrestre, on a beaucoup moins d'extinction. Il n'y a qu'une petite dizaine, quinzaine d'espèces qui sont, et pour la plupart ce ne sont pas des poissons, c'est plutôt des mammifères marins, des oiseaux marins, etc., qui sont en réelle extinction. C'est-à-dire il n'y a plus un individu représentant de l'espèce au niveau mondial. Donc on a peu d'espèces, mais ce qu'on a, c'est des diminutions absolument, je dirais, drastiques de l'abondance de certaines espèces. À tel point que pour certains requins, pour des espèces par exemple de raies, on a des diminutions de 90, 95, 99%. En Méditerranée, par exemple, vous avez 4 espèces de requins dont la diminution est de 99%. Alors 99%, ben ça veut simplement dire que là où il y avait autrefois 100 individus, il y en a plus qu'un aujourd'hui. Alors ça met en péril des populations locales bien sûr qui disparaissent et des extinctions. Donc ce qui veut dire que certaines espèces marines comme ces requins, ces raies sont en voie d'extinction.
Alors il y a une espèce dont on a beaucoup parlé ces dernières années qui a mobilisé notamment les ONG, c'est le thon. Où est-ce que nous en sommes dans les stocks de thon aujourd'hui?
Il y a beaucoup de stocks de thon dans différents océans, dans l'océan Indien, dans la Méditerranée. Alors, ce dont on avait beaucoup parlé, c'était le thon rouge. Le thon rouge, il y a encore 5 ans, il n'était pas géré. C'est-à-dire qu'il était géré avec des, ce qu'on appelle des quotas, c'est-à-dire des limites supérieures de prise, mais bien sûr qui n'étaient pas respectées. Donc, ce qui voulait dire que quand les scientifiques disaient il faut pêcher 10-12 000 tonnes, en réalité, les tractations politiques amenaient ce chiffre à 20, 25 000 tonnes, 30 000 tonnes, et dans l'arrêté, on empêchait 60 000. Alors, les ONG, le prince Albert II, se sont mobilisés pour dire, voilà, si on continue comme ça, on va vraiment faire disparaître une ressource qui était exploitée depuis des millénaires. Donc, il y a eu une mobilisation, on a régulé la pêcherie, il y a eu des sanctions de prise contre les pêcheurs qui dépassaient les quotas, il y a eu une régulation, et c'est au cours de ces 5 dernières années, je dirais, ça a marché. C'est-à-dire que le fait d'avoir limité l'effort de pêche, d'avoir limité les captures, on a eu des populations de thon rouge qui ont permis de recouvrer une certaine abondance. Et ce qu'il faut, c'est que ça, sur le long terme, cette stratégie et cette politique perdure. Alors bien sûr, aussitôt, dès que le stock remonte un peu, bien sûr, les organisations régionales des pêches veulent augmenter les quotas.
Et la guerre reprend.
À l'heure actuelle, on a augmenté le quota de 20%, sans trop savoir quel était le recouvrement réel du stock.
Alors, il faut gérer. Justement, je vous propose d'aller au Cap-Vert, un petit pays au large du Sénégal qui abrite 600 000 habitants dans ses 10 grandes îles. Les Cap-Verdiens vivent principalement de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. Alors, pour préserver les ressources et des espèces protégées comme les dauphins ou les tortues, le gouvernement a créé une réserve marine juste à côté de l'île de Santa Lucia. Le problème, c'est justement là que près de 400 hommes venaient pêcher chaque jour, de quoi gagner leur vie. Un programme coordonné par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, vient en aide à ces pêcheurs pour leur permettre justement de trouver de nouveaux endroits pour pêcher et leur apprendre de nouvelles méthodes sans délaisser pour autant leur tradition de pêche artisanale. Christine Siebert est allée les rencontrer.
Bon dia. Bon dia.
Distribution de matériel de pêche dans la maison des pêcheurs de Caliao. Une vingtaine de marins est là, debout, tongs aux pieds, bonnet bariolé sur la tête. Ils sont venus pour recevoir des gilets de sauvetage, GPS, cirés et grands bacs de congélation. Du matériel pour changer les méthodes de pêche sans pour autant abandonner les traditions. Le nouveau matériel est distribué par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Silvia Ridosa de l'UICN est basée à Paris. Elle est venue au Cap-Vert pour voir l'évolution de ce programme d'aide de prêt. Elle en explique le principe.
Nous gérons un programme de subvention, de financement pour les associations africaines pour qu'elles protègent leurs ressources naturelles. Un programme qui s'appelle le programme de petite initiative et qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Ce sont des fonds publics donc, qui vont directement aux associations, aux petites associations uniquement africaines dans les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et Madagascar et Mozambique. Et je suis venue au Cap-Vert pour visiter le projet de l'association Amigos do Calhão, une association qui réunit des associations de pêcheurs et elle fait en sorte de sécuriser les sorties en mer de ces pêcheurs qui, suite à la création d'une réserve marine sur l'île de Santa Lucia et de petites îles à côté de Raso et Branco, doivent aller pêcher plus loin. Donc le projet en question que nous finançons, que la France finance, sert à doter ces pêcheurs, quelques pêcheurs, bien sûr pas tous, malheureusement, qui vont pêcher soit à la voile, essentiellement à la voile, mais aussi un moteur, de les doter de gilets de sauvetage, de cirés, et aussi de caisses de congélation pour mieux conserver les poissons une fois qu'il est pêché sur la réserve de Santa Maria.
L'intermédiaire au Cap-Vert est Jorge Melo, président de l'association Amigos do Calhão.
L'association des Amis de Calhão, c'est une association communautaire. Nous travaillons avec les pêcheurs, avec les enfants, avec le professeur, avec toute la société. Mais nous sommes très forts dans la question ambientale.
Tout ça reste bien théorique. Nous allons sortir en mer pour pêcher près de Santa Lucia. Nous allons partir au bord de la Santa Isabelle. C'est un petit voilier rustique en bois de 5 mètres de long, peint en rouge, vert et jaune. Les voiles cousues main semblent être faites de bâches en plastique. Ça y est, il hisse la voile. Et on prend de la vitesse tout de suite. Nous partons avec un équipage de 3 pêcheurs. Jean Gemelo fait les présentations.
Je vais expliquer. Ça, c'est Noun. C'est le maître de le bateau. C'est lui qui décide tout dans le bateau. S'il me dit que je reste là, je reste là. S'il dit qu'il c'est là, c'est là. C'est lui qui parle, c'est lui qui dit tout dans le bateau. Ça, c'est Nouni.
Nouni.
C'est le fils de Noun.
Ah, c'est pour ça, j'ai vu la ressemblance.
Non, c'est Noun, Noun, Nouni.
Vous êtes jeune, hein, pour avoir fils comme ça.
Oh, ben, hein. Je peux te refaire. Et ça, c'est John.
John.
Tu sais, pour faire le voile, c'est nécessaire toujours 3 personnes, minimum 3 personnes.
Ah voilà les nouvelles, les nouveaux vestes de sauvetage. Pour la première fois, il met la veste de sauvetage.
C'est bizarre parce qu'ils sont serrés là.
Normalement, vous mettez pas avant, vous mettez jamais la veste de sauvetage. La première vez, non?
Si, pour la première vez, si.
D'accord.
C'est une idée de la loi. C'est la loi qui fait ça. Oui. La loi pour la sécurité. Parce que, comme je dis, à beaucoup d'années, de 80-82, que la loi dit que tout le bateau, c'est nécessaire qu'il utilise, le bateau de tout Cap-Vert. Mais jamais le bateau utilise parce qu'il n'y avait pas. C'est la première fois et j'espère que c'était un projet qui, avec la multiplication pour les autres îles, il va produire beaucoup de choses bien. Parce que le pêcheur n'a pas d'argent pour acheter. C'est le problème. C'est quelque chose comme 4200 escudos pour un. Nous faire l'importation, vient d'Europe.
Tu ne peux pas pénaliser quelqu'un alors qu'il ne peut pas trouver les gilets de sauvetage en vente.
Ça, c'est une question de le gouvernement de regarder comment il va faire ça.
Là, ça commence à... Là, il y a beaucoup de vagues.
Nous sommes dans l'Atlantique. Et aujourd'hui, la mer, c'est magnifique. C'est magnifique, la mer. C'est différent quand il fait vent.
Oui,
le vague, c'est vague de 7, 8, 9 mètres. Ça, c'est l'île de Saint-Antoine, vous regardez là, entre les deux montagnes.
Oui, les montagnes, oui. Elle est beaucoup plus verte, c'est ça, Saint-Antoine.
Oui, dans le vallée, et le top de la montagne, il y a 2000 mètres.
Oui,
c'est vert. C'est se trouve en forêt comme la forêt d'Europe. C'est joli, c'est magnifique. Quand tu vas monter le 2200 mètres, c'est fou.
Ça fait combien de temps qu'il y a une réserve naturelle autour de Santa Lucia?
Jusqu'à l'année de 92.
Et les pêcheurs respectent cette réserve depuis toujours ou comment?
Non. Le gouvernement a créé la réserve, mais le pêcheur pas en co-gestion. Ça, c'est une réserve intégrale. Intégrale dit que c'est pas possible de rien de personne de rester quelques minutes dans les îles de réserve. Seulement à 2006. Nous avons commencé le programme avec VVF de sensibilisation et de divulgation de la réserve.
Alors, il y a 2 ans, ils ont créé un plan de gestion,
oui,
c'est ça?
Et maintenant, il est approuvé pour le gouvernement.
D'accord. Ça fait 2 ans que les pêcheurs prennent conscience et pêchent plus dans le...
Ils savent quelle est la différence maintenant, mais ils ne s'appliquent 100%. Parce que pas en loi juridique pour accompagner le plan de gestion. Et c'est ça qui maintenant, c'est le travail.
Ils travaillent sur une loi?
Oui, pour l'Assemblée nationale.
Pour dire quelles amendes, quelles punitions, qu'est-ce qui se passe.
À partir d'ici, on va travailler pour ça. Avec la sensibilisation, les enfants, les écoles, vous avez le livre qui nous parle de réserve, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le gouvernement et nous a créé cette réserve. Et Santa Lucia, il y a un côté qui c'est intégral, un côté qui est libre pour le pêcheur. Le pêcheur, comme toute la profession, il regarde la solution immédiate. Demain, c'est un autre jour, nous va parler demain, nous parle. Et c'est pas facile d'expliquer que son fils, c'est nécessaire qu'il va pêcher plus. C'est ça qui nous travaille, c'est ça.
C'est ça, voilà.
Et attention.
Oui, le microphone est éclaboussé par les vagues.
Mais elle, pas de problème dans l'eau de mer?
Bon, si, mais on va essayer d'éviter ça.
Mais...
Nous n'avons pas pêché un seul poisson, mais déjà l'île de Santa Lucia approche. Des collines de couleur marron qui semblent subitement surgir des vagues.
Bienvenue au Santa Lucia.
Voilà.
Bienvenue à mon île, c'est ça. Moi, quand je viens ici, je recorde de moi, petit, avec ma mère qui pêche ici, mon père, ma famille, mon oncle aussi.
Vous avez pêché à la ligne?
Oui, à 7 ans, je pêche à la ligne. Après, je fais la pêche sous-marin, blablabla. Maintenant, bon, il y a le problème de pêcheurs qui habitent là. C'est pas joli, mais c'est la vie, c'est...
Oh, c'est juste une toute petite cabane. Hein. C'est une cabane faite de quelques planches, oui, voilà. Ils habitent là, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Voilà. Quelques bateaux, quelques personnes, ils habitent là, là, là. Vous vas regarder, beaucoup de petites cabanes, beaucoup de petites places.
Parce qu'en principe, c'est une île inhabitée, il n'y a pas de maison, ça, mais les pêcheurs restent un peu comme ça, quelques jours.
Souvent, oui, oui, pêcher, 4, hein, 5 jours, toute la semaine ici.
Alors, pour qu'on puisse imaginer un peu, parce que les auditeurs, évidemment, n'ont pas la chance de voir tout ça, cette merveille comme nous. Donc, il y a une plage de sable, le blanc, voilà,
c'est la mer. L'eau transparent, clair, pas de pollution. Vous pouvez regarder même le poisson situé ici, parce que l'eau, c'est vraiment transparent. C'est le sable, c'est joli.
Pendant le voyage retour, là non plus, aucun poisson ne mord. Pourtant, ces eaux regorgent de poissons et ces ressources halieutiques intéressent les investisseurs étrangers. Ainsi, l'Union européenne a récemment renouvelé ses accords de pêche avec le gouvernement capverdien. Cet accord autorise 71 navires européens à pêcher 5000 tonnes de thon et d'autres espèces hautement migratoires dans les eaux du Cap-Vert. En retour, l'Union européenne assure une contribution financière de 550 000 euros par an les deux premières années, puis de 500 000 euros par an. D'ici, on ne peut pas les voir, mais il y a bien des grands bateaux industriels, non seulement européens, mais aussi chinois et japonais, qui pêchent au large. Une concurrence dangereuse pour les pêcheurs artisanaux capverdiens. Noun en sait quelque chose, puisqu'il a travaillé sur ces bateaux.
Les bateaux espagnols et portugais pêchent beaucoup de thon et de requins. Ce qui les intéresse, ce sont les ailerons des requins. Mais après, ils jettent le reste. J'ai moi-même travaillé sur des gros bateaux industriels, près de l'île de Fogo et Boa Vista. Ils pêchent avec des longues lignes de 1200 hameçons. Les poissons qui mordent, souvent les dorades et les barracudas, n'intéressent pas les grands bateaux. Eux veulent surtout pêcher du thon et du requin. Alors ils retirent tout simplement les poissons qui ne les intéressent pas et ils les rejettent à la mer, même lorsqu'ils ne vivent plus. Quand vous mettez 1200 hameçons, vous ne savez pas quel poisson vous allez pêcher. C'est comme ça qu'ils épuisent les stocks. Si au moins ils donnaient ces poissons aux Cap-Verdiens. Mais ils ne veulent pas que nous gagnions de l'argent avec. Et puis il y a aussi une question de place dans le frigo. Si le frigo sur le bateau est rempli de poissons qui vont donner aux Cap-Verdiens, il ne reste plus de place pour les poissons qui les intéressent, comme le thon. C'est très compliqué.
Muito obrigada, muy, muy bien, muy lindo, todo. C'est super, magnifique. Hein? Obrigada. Ciao, 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 Nuna.
Ciao, Cristina.
Pause café dans la Casa Café Mindelo. La discussion revient sur le problème que la pêche industrielle pose aux pêcheurs artisanaux.
Le grand bateau de pêche industriel. Ça, c'est grave. Malheureusement, Cap-Vert nécessite de l'argent. L'Union européenne, le Japon et même le Chinois, ils donnent beaucoup au Cap-Vert. Je sais que c'est nécessaire quelques compensations. L'unique problème, c'est qui ? C'est le bateau industriel, s'ils sont sérieux, il va pratiquer la pêche, c'est la pêche de poissons qui ne sont pas poissons qui habitent au Cap-Vert, sont poissons migratoires, le thon et les autres types comme ça. Mais malheureusement, pour la nuit, ils ne respectent le 12 000 de la côte, ils viennent, ils pêchent toute la nuit à côté et après ils sortent et ils disent non, non, non. Moi je sais, personnellement je sais, parce que j'habite beaucoup au Santa Lucia, je fais beaucoup de pêche, je pratique beaucoup. Je sais que c'est vrai, que pour la nuit, le bateau, il s'approxime de la zone de pêche.
Mais la réglementation de l'accord entre le Cap-Vert et l'Union européenne prévoit que les bateaux de l'Union européenne restent en dehors de 12 000, c'est
oui,
ça?
D'accord. Oui, à l'extérieur de 12 000. C'est l'Espagnol, ou c'est les Chinois, ou c'est les Japonais, ou peut-être s'il y a du Sénégal.
Avec tous les bateaux qui tournent autour, nous avons du mal à croire que jamais aucune vedette du Cap-Vert a vu un bateau espagnol faire des choses qu'il ne faut pas.
Même le gouvernement ne sait pas quelle est la quantité qu'il va pêcher, parce que pas d'un contrôle de le poisson.
Un reportage de Christine Siebert réalisé par François Porcheron. Philippe Curie, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement et expert en gestion écosystémique des ressources marines. Alors comment réagissez-vous à ce reportage?
Vous savez, dans les années 80, j'ai commencé ma carrière et j'ai commencé ma carrière au Sénégal. Donc j'étais aux îles du Cap-Vert et j'ai vu cette situation des pêches artisanales qui à l'époque étaient... Il y avait peu de pêcheurs, elles se portaient bien. Et on l'a vu, et on l'a vu, je dirais... Partout au niveau mondial, ces pêches artisanales ont complètement explosé. C'est-à-dire que vous avez un nombre de pêcheurs qui a grandi et on l'a souligné tout à l'heure, les méthodes de pêche aussi ont considérablement évolué, notamment la capacité des pêcheurs à détecter les poissons. Donc aujourd'hui, il faut bien considérer que ces pêches artisanales sont très efficaces. Donc il va falloir les gérer, tout comme on gère n'importe quelle pêcherie.
On voit que c'est difficile quand même de faire changer les pratiques.
Oui, c'est difficile, mais il va falloir changer. Il y a par exemple des réserves marines, et il va falloir développer ces réserves marines, bien évidemment, qui sont encore trop peu nombreuses au niveau mondial, puisque vous savez, il y en a à peu près 2% de la surface des océans. On a dit au niveau international qu'on allait aller vers les 10%, et même peut-être 20%. Donc, il va falloir tenir compte de ces nouveaux outils, s'adapter à ces nouveaux outils de protection, tout en réconciliant cette protection avec la conservation. Donc, développer ces pêches artisanale avec des outils, avec des subventions. Les subventions sont utilisées, vous savez, toujours pour développer, pour pêcher toujours plus. Il va falloir utiliser aussi ces subventions pour pêcher mieux valoriser les produits de la mer, pour que les pêcheurs artisans tirent un meilleur profit de leur activité, utiliser des engins qui soient certainement beaucoup plus passifs, beaucoup moins gourmands en gasoil, donc des meilleures valorisations, des meilleures protections aussi de la biodiversité. Et utilisons ces subventions, qui sont quand même nombreuses dans la pêche, pour rendre les pêches viables, c'est-à-dire en préservant toute la productivité des océans.
Alors vous le disiez, il y a la concurrence avec la pêche industrielle, on l'entend bien dans le reportage. Alors on voit bien que c'est une concurrence mais qui est un petit peu injuste, parce qu'évidemment que la pêche artisanale face aux gros bateaux, il ne joue pas à armes égales.
Bien sûr, ce n'est pas du tout armes égales. Et ça, cet exemple du Cap-Vert, c'est un exemple que l'on analyse dans tous les pays, je dirais, tous les pays du Sud. Tous les pays du Sud sont confrontés à ce problème parce que, en réalité, tous les pays du Nord ont surexploité leurs ressources. Bon, essayent aujourd'hui de rendre les pêcheries viables, mais avec la consommation qu'on a dans nos pays, aujourd'hui, il faut bien savoir qu'en Europe, on importe 65% de nos ressources marines des pays du Sud. Donc, on met une pression sur les pays du Sud qui est absolument immense. Alors, il y a l'Europe. L'Europe développe des accords bilatéraux de pêche et ce sont des accords qui sont négociés directement avec les pays. Mais il y a d'autres pays, il y a la Chine, il y a la Russie, vous avez tous ces pays qui développent aussi des accords qui sont parfois des accords privés. Et là, ce sont des accords qui ne sont pas transparents et qui sont, donc on le voit dans le reportage, on ne sait pas exactement combien ces pays, tous l'ensemble de ces pays qui exploitent avec grande intensité, notamment là les ressources de thon, on ne sait pas combien ils prélèvent dans les océans de ces ressources. Donc ça rentre en interaction, ça rentre en compétition complètement directe avec les pêches artisanales. Alors, aujourd'hui, il y a une réflexion qui s'élabore pour savoir qu'est-ce que, si cette, dans cette mer hauturière, qu'on appelle mer hauturière, où on pêche les thons, si on pourrait pas, d'un point de vue international, d'un point de vue juridique, finalement faire des grandes réserves hauturières et laisser un accès pour développer toutes ces pêches artisanales qui peuvent en réalité très bien exploiter ces thons hauturiers. Donc ça, c'est une discussion qui est bien sûr un peu provocante, mais en même temps qui permettrait au pays de s'approprier des ressources dont ils ont extrêmement besoin, parce que la pêche est une activité où toute la pauvreté, si vous voulez, beaucoup de pauvreté va. Dans la pêche, vous n'avez pas besoin de foncier, vous avez besoin simplement de monter sur un bateau, d'aller sur un équipage, d'acheter une ligne, etc. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour devenir pêcheur. Et on voit bien dans nombreux pays où il y a des problèmes à cause du changement climatique, problème d'agriculture, problème d'emploi, eh bien beaucoup de gens vont à la pêche. Donc il faut en même temps réguler cette pêcherie, la rendre viable, la rendre durable, mais en même temps il faut réfléchir à ces accès qui sont pour l'instant des accès aux flottes internationales. Il va falloir que les pays remettent en perspective ces exploitations pour développer, si cela est possible, les pêches artisanales.
Voilà, parce qu'on comprend bien, c'est un énorme enjeu de développement. Merci beaucoup Philippe Curie, merci aux équipes techniques de France Bleu Hérault et à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.